Theresa May sous le feu des questions et des critiques.
Ce n'est pas l'accord qui a été promis au pays.
Theresa May avait dit que nous quitterions l'union douanière. L'annexe 2 du projet d'accord sur le Brexit dit le contraire.
Pendant 3 heures, point par point, la chef du gouvernement britannique a défendu le projet d'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles.
Cet accord nous rend le contrôle de nos frontières, de nos lois et de notre budget. Il protège nos emplois, nos citoyens et l'intégrité du Royaume-Uni. Nous avons réussi ce que beaucoup disaient impossible.
À la différence de Theresa May, les opposants à l'accord dénoncent une perte de souveraineté. Car pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, province britannique, et la République d'Irlande, membre de l'UE, le texte envisage le maintien d'une union douanière. À Bruxelles, le négociateur en chef pour l'Union fait profil bas. Michel Barnier espère que les quelques 600 pages de l'accord seront entérinées lors d'un sommet prévu le 25 novembre.
Comme je l'ai dit la nuit dernière, c'est un moment important. L'accord auquel nous sommes parvenus est juste et équilibré.
Alors cet accord, qui doit conduire au Brexit en mars prochain, est-il un bon deal pour l'Union européenne? Est-ce un compromis perdant-perdant ou gagnant-gagnant? L'Europe en sort-elle renforcée?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre une page d'histoire. Denise McShane, bonsoir. Vous fûtes ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2005 dans le gouvernement de Tony Blair et vous fûtes un député travailliste. Vous considérez que c'est un deal perdant-perdant, comme on dit, qui ouvre la voie à des années de tensions et de querelles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À côté de vous, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, pardon Anne-Elisabeth, et clubiste évidemment régulière le vendredi. Anne-Elisabeth Moutet, vous estimez qu'à court terme, c'est un bon deal pour l'Europe, mais à long terme, beaucoup moins se priver des Anglais de cette façon-là, les traiter ainsi, mais qui les a traités ainsi ? Les traiter ainsi n'augure rien de bon pour l'avenir. Et nous recevons aussi Patrick Le Gallès, bonsoir, vous êtes politiste, spécialiste de la Grande-Bretagne, vous êtes professeur à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS, vous estimez que cet accord est une bonne chose, il limite la casse, les Britanniques ont lâché sur des points importants, on va y venir évidemment au cours de notre débat, et l'Europe a réussi à garder la main sur les priorités. Vous les développerez dans un instant. Mais d'abord, on démarre le débat avec une question. Vous avez choisi une question de nos téléspectateurs.
Oui, un téléspectateur qui demande si le Royaume-Uni veut encore de ce fameux Brexit. Denise McShane, où en est l'opinion sur le Brexit? Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués, les sujets britanniques, de ce sujet qui dure depuis presque 2 ans et demi?
Oh, ils vont encore plus fatigués dans 10 ans, parce qu'on est dans une période de Brexit éternité, parce que cet accord implique des négociations durant des années et des années, des tensions ici et là. Mais oui, l'opinion publique a changé, pas dramatiquement, mais tous les sondages, sans exception, maintenant montrent une majorité pour rester dedans.
S'il y avait un nouveau référendum aujourd'hui, il voterait pour le Remain.
D'aujourd'hui, ce matin, il y a un sondage 56%. Il y avait 700 000 qui ont manifesté à Londres il y a 3, presque 4 semaines. C'est extraordinaire. C'est un des plus grands manifs jamais dans l'histoire de l'après-guerre en Angleterre. Donc, oui, l'ambiance a changé.
Patrick Le Gallais,
je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'ambiance a changé un tout petit peu. Et donc, ça resterait extrêmement serré. Il faut se rappeler que le sondage, c'est une chose. On ne sait pas qui ira voter derrière, ce qui est déjà passé la première fois. Et surtout, on ne sait pas quelle sera la question posée sur le bulletin. Donc, beaucoup de Britanniques seraient d'accord pour participer peut-être au marché commun d'une certaine manière et rien d'autre. Mais rester dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est extrêmement peu probable. Donc,
est-ce que c'est réaliste quand même ce référendum ou c'est une...
Moi, j'ai toujours pensé que non. J'ai toujours pensé que non parce que si vous faites un référendum aujourd'hui, probablement le résultat sera extrêmement serré. Donc imaginons que les Remain gagnent. D'abord, on ne sait pas quelle est la question. Tout dépend ce qu'il y a sur la question. Et on sera, ce sera très serré et on repart sur des négociations pour 10 ans.
On n'y est pas encore. Donc parlons d'aujourd'hui. Parlons de la situation Ike Nunk et avec un chiffre de l'argent.
Oui, 45. Et oui, 45, c'est important. C'est la facture que le Royaume-Uni va devoir régler. 45 milliards d'euros à Bruxelles pour quitter l'Union européenne. Ce qui sort donc de cet accord. C'est moins important que le montant réclamé le mois dernier par le Parlement européen. Mais c'est quand même le double de ce que Londres avait proposé. Donc c'est pas rien. pour Theresa May et la Grande-Bretagne. Alors est-ce que, Elisabeth Moutet, est-ce que l'Europe a gagné, là, pour le coup, de ce deal?
Il faut savoir que la Grande-Bretagne s'est engagée dans une série de deals européens, de politiques européennes dans laquelle elle avait promis un financement, et que laisser les gens au milieu du guet dans quelque chose qui est engagé, on doit être responsable de ces engagements. C'est ça la raison pour laquelle la somme est là où elle est. Et ensuite, il y a eu des négociations évidemment sur ça. Est-ce que l'Europe s'en tire bien? Moi, je pense, l'Europe peut dire, écoutez, on n'a pas lâché sur nos principes, on n'a pas lâché sur les quatre libertés, la liberté de circulation des biens, des services, etc., des hommes, et j'oublie tous les capitaux, mais on empêche les Anglais de dire que vous pouvez faire l'Europe à la carte. Ouais. Alors, c'est très bien de dire ça, mais quel que soit maintenant, au point où on en est, au point de mécontentement général, je pense qu'un nouveau référendum serait une bonne chose, parce que les gens qui ont voté sur quelque chose qui est différent, ils ont vu 2 ans de cafouillage, ils se demandent vraiment si c'est une bonne idée pour continuer. Et malgré tout, il y a une réalité politique différente. Il y a une chose que la réglementation financière de Bruxelles appelle du mis-selling, c'est-à-dire quand vous vendez quelque chose, par exemple un produit financier, et que vous vendez un produit financier en donnant des mauvais arguments. Ça va monter, puis ça monte pas. Et où c'est garanti pour monter, ça ne monte pas. Eh ben, il y a eu un mis-selling du Brexit, et c'est quelque chose qui devrait donner légalement la possibilité aux gens de voter. Mais alors, à long terme, je pense que, de toute façon, c'est à court terme, l'Europe dit, OK, on s'est bien débarrassé. À long terme, l'Europe perd la participation anglaise dans la régulation, dans les politiques, etc. Il y avait d'excellents fonctionnaires britanniques à Bruxelles qui travaillaient très bien dans l'élaboration des lois. Ils n'ont pas été repris par l'équipe de May parce qu'on a considéré qu'ils avaient passé tellement de temps à Bruxelles qu'ils étaient, entre guillemets, vendus à l'ennemi, ce qui est une erreur.
Contaminés.
On s'est privé d'une grande technicité. Et la participation britannique contrebalançait l'étatisme des Français et l'industrialisme des Allemands. Et leur départ, d'abord, ça va d'encourager. Contrairement à ce qu'on croit, au lieu de décourager les gens en disant, vous voyez, ce qui vous arrive si vous partez, on va vous taper dessus, il y a tout un tas de nations à l'est, par exemple, de l'Europe, qui vont dire, eh ben, si c'est comme ça qu'on est traité, nous aussi, on a l'option de partir.
Patrick Le Gallès, vous vouliez rajouter quelque chose
sur la question de l'argent. 45 milliards, c'est le nombre qui est affiché et qui est le compromis dans le document. L'audit office anglais, donc la Cour des comptes anglaise, nous dit qu'en réalité, ce sera 60 milliards. On a affiché 45 parce que ça faisait un chiffre qui faisait compromis. Et de toute façon, la Grande-Bretagne va payer jusqu'en 2064, tout un ensemble de choses. Donc là, on a mis un chiffre symbolique qui est très raisonnable pour les deux parties. La réalité des paiements risque d'être assez différente.
La facture va être plus lourde que ça.
Risque d'être assez différente.
Faites-nous écouter quelqu'un. Oui. On connaît bien le même reçu.
Fantasque Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui simple député et qui lui a un avis très sévère sur cet accord. Il était avant-hier sur la BBC, on l'écoute.
Cet accord fait du Royaume-Uni un État vassal. Pour la première fois depuis 1000 ans, ce Parlement n'aura plus son mot à dire sur les lois qui gouvernent ce pays. C'est une situation extraordinaire. Cela veut dire que nous allons devoir accepter les règles de Bruxelles sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. C'est absolument inacceptable pour qui croit en la démocratie.
Alors, Denis McShane, qui a raison? Est-ce que la Grande-Bretagne a recouvré un peu de sa souveraineté ou pas avec cet accord, ou c'est Boris Johnson qui dit vrai?
Boris dit qu'on a 1000 ans de la démocratie parlementaire en Angleterre. Donc, Guillaume le Conquérant, la première chose qu'il a fait en arrivant, c'est de créer un parlement. Donc, Boris l'historien est nul. Boris le secrétaire des Affaires étrangères, mais c'était plus que nul.
Oubliez que c'est lui. Sur le fond.
Il devient un clou. La démission de son frère, alors plus intelligent et plus ambitieux, était beaucoup plus frappant.
Donc, sur le fond, dites-moi.
Non, est-ce non, au contraire, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le business, tous les acteurs dans la politique étrangère, pensent qu'on va perdre énormément d'influence, d'accès. Donc, je ne sais pas, le seul homme souverain dans l'histoire du monde était Robinson Crusoe. Parce qu'il était lui, son île, et toute seule. Il avait la souveraineté totale. Donc c'est le perte d'influence.
Robinson Crusoe, c'est de la fiction.
Très, très sérieux.
Mais Patrick Legas, alors est-ce que l'Angleterre retrouve cette souveraineté ou pas qu'elle souhaitait, enfin c'est Brexiteur, ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils obtiennent gain de cause?
Voilà, alors tout le problème, c'est que dans souveraineté, il y a plusieurs bouts. Et que quand on dit ça, en fait, on ne sait pas ce qu'on dit, parce que tous les pays sont dépendants les uns des autres. Donc d'un côté, à court terme, ce n'est pas une évolution majeure. Parce qu'ils vont rester dans l'union douanière. D'un côté, ils récupèrent des contrôles et des compétences sur tout ce qu'a dit Mme May.
Lesquelles,
sur
par exemple,
la politique agricole, sur le droit, puisque la Cour de justice joue un rôle moins important, tout un ensemble de choses, sur le contrôle des frontières. Donc clairement, il y a des gains de ce côté-là. De l'autre côté, elle va perdre sa capacité d'influencer sur toutes les politiques européennes, sur tout un ensemble de décisions,
ce que dit Boris
y compris des partenariats à l'extérieur. Et de ce côté-là, ils ont plutôt tendance à perdre les capacités et leur souveraineté, de ce point de vue-là. Donc, à court terme, les jeux ne bougent pas énormément. Il y a un peu d'un côté, un peu de l'autre. À moyen terme, tout dépend si, dans l'accord final, la Grande-Bretagne réussira à garder le Royaume-Uni davantage toutes ses compétences qu'elle veut récupérer, ou bien au contraire, elle sera encore plus dépendante de l'Europe, car elle ne sera pas capable de pouvoir exercer une partie de ses assets de souveraineté.
Sur cette question,
jury still out. Ouais.
Elisabeth Moutet,
elle regagne un tout petit peu de souveraineté par rapport à ce qu'elle avait avant. Elle, évidemment, dans la vision rose du Brexit réussi, elle n'en gagne pas autant. Mais le diable est dans les détails. Mm-hmm. On va voir ce qui est donné en échange. Plus que la production industrielle dont tout le monde parle, en réalité, le vrai problème, c'est les institutions financières. Les institutions financières. Pourquoi est-ce que tant de gens sont basés dans la City de Londres? C'est parce qu'il y a un truc qui s'appelle le passporting, qui veut dire que quand vous avez une banque, une société d'assurance, etc., ils ont le droit de travailler dans les 27 de l'Europe, comme ils travaillent à partir du moment où ils sont dans un pays de l'Union. Et ils sont tous en train de quitter la cité parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas le droit de passporting. Or, c'est là
où ils sont tous partis ou juste une
partie? Non, ils commencent à partir et ils partent de plus en plus. C'est pas encore terminé.
C'est le début, non? C'est la raison.
C'est le début. Et il y a une technicité dans la City de Londres qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est le champion du monde de la technicité financière. Malheureusement, ça ne suffit pas. Si vous ne pouvez pas décider à Londres de choses qu'on va faire dans le reste du pays, si votre quartier général est dans un pays qui n'est plus dans l'Union européenne, vous êtes embêté. Donc là, il y a potentiellement une catastrophe.
On vous a pas entendu parler de l'Irlande encore, tous les trois?
Moi, je suis de moitié. Ma femme est irlandaise.
Enfin, pas pour des raisons biographiques, mais pour des raisons...
C'est important, parce qu'il y a pas mal...
Je vous taquine.
Non, il y a pas mal des conservateurs qui ne savent strictement rien sur Irlande.
Oui.
Et que, par exemple, ils ne connaissent rien sur l'accord de Vendredi Saint, les troubles... Irlande était en conflit permanent avec l'Angleterre pendant des siècles, et même sept siècles, des conflits meurtriers, 3600 gens tués dans les années 70-80. Et on a mis fin à ça grâce aux Tories et Labour, les deux ensemble. C'est pas une question.
Donc ça peut raviver les tensions là?
Absolument. Si vous voulez faire réentrer une frontière. Garde, une frontière physique avec un petit poste, d'abord c'est douanier, et on tire sur lui, il y a des gens prêts à le faire en Irlande, au nom de l'unification de Irlande. C'est pourquoi Madame May, tous les chefs de sécurité, renseignement, la police, ont terrifié de leur retour. Mais pour les hard Brexiters, Boris Johnson a dit c'est comme d'aller d'un quartier à Londres à un autre. Ah, mais c'est
oublions-le, soyez au-dessus de ça.
Voilà. Non. Il est très, très important à comprendre à quel point on a fusionné ce qu'on appelle la carte Brexit et la carte orange. Avec le DUP, ça c'est la secte protestante qui représente que 30% de les électeurs nord-irlandais, mais c'est eux qui contrôlent tous. Parce que les députés élus de Sinn Féin refusent de prendre leur siège à Westminster. Donc la voix de les 70% des Irlandais du Nord n'était nulle part ces derniers deux ans dans les débats.
C'est le vrai problème.
Vous avez raison d'insister sur ce point. Ouais. C'est quand même le problème politique absolument majeur. Et l'accord qui a été signé de façon temporaire, il faut aussi se rappeler que du côté européen, le gouvernement irlandais a été absolument central dès le départ des négociations pour trouver un compromis à la fin et pour insister sur l'importance de cette question sur toute la négociation. Et là, on voit bien que le compromis qui a été trouvé, qui est assez astucieux, mais qui ne va pas aller très très loin, permet à la fois de garder l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, mais en même temps, certains nombres de règles et de normes de la manière dont on organise les marchés vont être du côté européen.